Bonjour à tout le monde. Alors, tout d'abord, le problème auquel je me trouve confronté pour parler de la sorcellerie, c'est que c'est quelque chose sur lequel, c'est un sujet sur lequel je n'ai pas travaillé, jamais spécialement travaillé. Alors, j'ai travaillé un petit peu à côté sur les rituels d'initiation javanais. Ce faisant, donc, j'étais amené à entendre plutôt parler de la sorcellerie que véritablement travailler dessus. Par contre, ce qui m'est apparu pour Java, c'est que, à force d'entendre des choses sur ce sujet, c'est que c'était un sujet qui se présente un petit peu en négatif de ce sur quoi je travaillais. L'initiation rituelle, les rituels javanais. Alors j'ai jamais, du coup, comme j'ai jamais travaillé sur la sorcellerie et que je ne sais pas trop ce que recouvre l'objet sorcellerie, et je m'aperçois au fil des exposés qui ont été faits à l'occasion de ce séminaire interlaboratoire que j'ai l'impression que je ne suis pas seul à être dans ce cas-là, de parvenir à bien délimiter quel est l'objet, ce que recouvre la sorcellerie. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour ça. Notamment, on connaît mal les techniques qui rentrent en cause parce qu'on a du mal à les étudier. Alors, c'est Jeanne Favret-Saada qui a bien montré les difficultés qu'elle a rencontrées pour étudier cet objet dans le bocage normand et qui nous en a parlé donc le 28 janvier. Donc, je pense que c'est une des raisons. C'est-à-dire que ce ne sont pas des pratiques seulement secrètes, comme celles sur lesquelles j'ai pu travailler, d'initiation rituelle, mais vraiment que l'on cache, donc qui sont plus que secrètes, à la limite. Voilà, donc j'ai une difficulté, je pense qu'il y a une difficulté pour cerner précisément l'objet sorcellerie. Déjà, le terme lui-même, qu'est-ce qu'il recouvre exactement? Et donc quand je réfléchis par rapport à mon terrain javanais, je m'aperçois que y a un terme qui veut dire sorcellerie, ilmuktam par exemple, en indonésien, mais en javanais, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment un terme qui pourrait servir à traduire le mot sorcellerie. Il y a plutôt un ensemble de pratiques parmi lesquelles on peut en reconnaître qui correspondent à ce que nous on appellerait sorcellerie, ou ce qu'on désigne comme sorcellerie, ou ce qu'on classifie comme sorcellerie. Mais c'est très compliqué, puisque nous-mêmes, comme c'est un sujet qu'on connaît mal, dont on cerne mal l'objet, on a donc forcément du mal à le définir. En fait, cet objet en Indonésie, donc Java, c'est une des îles du pays Indonésie. En Indonésie, ce dont je me suis aperçu, c'est que le terme, en fait, se développe davantage, pour ressembler à ce que nous, on recouvre au travers de ce terme, se développe davantage, pour ressembler à ça, dans un contexte plutôt national. National ou marqué par les religions formelles, les religions officielles d'ailleurs, puisque l'État indonésien reconnaît 5 religions officielles qui sont l'islam, qui est la plus représentée, le christianisme, c'est-à-dire le catholicisme et le protestantisme, le bouddhisme et l'hindouisme, qui sont censés être des religions toutes monothéistes. Donc, par rapport à ce contexte général, si vous voulez, de développement de l'État-nation indonésien, et aussi de développement un petit peu du caractère normatif des religions, au travers des réseaux religieux, des différents réseaux religieux qui se ramifient dans la population indonésienne, des pratiques qui localement, à mon avis, ne sont pas forcément à taxer de sorcellerie, finissent par le devenir, mais d'un certain point de vue. Du point de vue local, ça ne va pas forcément être de la sorcellerie, mais du point de vue, alors même de l'islam, il y a plusieurs points de vue. Je vais revenir dessus un peu plus en détail. Il y a des points de vue plus intégrateurs des pratiques locales, donc aussi plus intégrateurs de ce qui peut être reconnu comme sorcellerie dans, par d'autres points de vue, de l'islam orthodoxe, qui, lui, va avoir tendance à voir de la sorcellerie, peut-être, un peu partout. Alors, je vais revenir plus en détail sur ces points. Là, c'était pour camper le cadre général et puis le problème dans lequel je me trouve. Donc, par rapport à ce problème de l'objet sorcellerie, je vais essayer de montrer quelles sont les différentes perspectives qui permettent de dire s'il y a sorcellerie ou pas sorcellerie, si une même pratique est considérée d'un point de vue sorcellerie ou d'un autre point de vue, pas du tout. Ça marche ? Alors, si ça marche...
Super.
Est-ce que c'est le bon dossier, sorcellerie ? C'est sorcellerie,
oui.
C'est ça ?
Ah, tu as mis sur le bureau.
Voilà, il est là.
Ah, ouais, génial.
Super. Après, tu as besoin de quoi ? Super. Les cartes sont là.
Ouais, d'accord.
Ouais, tu peux.
Ok. Merci beaucoup.
Tu reviens ici.
D'accord.
Super,
merci, Gérard. On voit quelque chose ? Ouais, super.
Oh, bon, on voit bien.
Ouais.
Bon. Voilà, donc l'Asie du Sud-Est dans le monde, hein, qui est comprise entre la Chine, l'Australie et l'Inde. L'Inde, l'océan Indien, donc jusqu'à l'Afrique et notamment Madagascar. Hein, les Indonésiens partagent une même origine avec les Malgaches. Attendez, je passe à la carte suivante. Voilà. L'Indonésie, donc, dans l'Asie du Sud-Est. Avec l'île... On voit la souris, là ?
Ouais.
Avec l'île de Sumatra, là, et l'île de Java qui se situe ici. Et juste à côté de l'île de Java, vous avez une petite île, là, c'est Bali, qui est liée à l'histoire de Java, puisque, en fait, en gros, les Balinais sont des Javanais de la période hindouiste qui ont été repoussés à la faveur de l'expansion des royaumes musulmans et qui se sont retrouvés à Bali. Voilà. Bon, alors l'Indonésie, c'est ce grand archipel là en couleur marron clair qui comprend aussi l'île de Bornéo, les célèbres, et donc qui arrive. Non. qui arrive en Mélanésie, dont une partie, la partie occidentale, appartient à l'Indonésie. Vous voyez qu'une partie de l'Indonésie est déjà dans le monde océanien. Alors, hop. Là, juste une carte sur la population en Indonésie. Tout ça pour dire que ça rentre aussi en jeu, à mon avis, par rapport au sujet que je vais aborder. C'est la densité de population à Java. Vous voyez l'échelle, là, c'est ce qui est foncé, c'est plus de 500 habitants au kilomètre carré. Java, c'est une des plus fortes densités de population d'Extrême-Orient, mais aussi au monde. Donc une forte densité de population, près de la moitié de la population indonésienne. Vous voyez, c'est immense quand même, l'Indonésie, hein, ça fait 3000 km sur 5000. Près de la moitié de la population habite sur l'île de Java, donc c'est une forte densité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Voilà. Alors, je regarde si je suis l'ordre que j'avais prévu. Oui, je crois que jusque-là ça va à peu près. Alors j'ai prévu pour le plan, si vous voulez, j'ai prévu. Si je le retrouve, mon plan. J'ai prévu de vous parler, d'évoquer. Oui, donc j'ai pas suivi l'ordre, bon, c'est pas grave. J'avais prévu d'évoquer les pratiques de magie noire que j'ai rencontrées sur le terrain. Parce que, après, pendant un petit moment, je vais pas parler directement de magie, enfin de sorcellerie, pardon. C'est pas grave, j'ai commencé comme ça, je vais continuer comme ça. Alors, sur la carte, ça c'est l'île de Java, donc que je vous ai montré, qui était surpeuplée au milieu de l'Indonésie. L'île de Java n'est pas habitée que par des Javanais, elle est aussi habitée par des Sundanais, dans la partie bleue, là, voilà, par des Sundanais, avec des peuples très réputés pour leurs pratiques magiques, entre guillemets, les populations de Banten, notamment. J'ai un doctorant qui est actuellement sur le terrain à Banten et qui pourrait vous en parler très bien. Très réputé dans l'île de Java, les populations de Banten. Alors, l'anthropologue Louis Berthe avait travaillé sur les groupes badouis à Banten. Il a fait une recherche très intéressante sur ce groupe qui vit un petit peu en autarcie, qui refuse le progrès. Enfin bon, c'est pas mon sujet aujourd'hui, mais ça fait partie, si vous voulez, du monde javanais, un petit peu du monde magico-religieux qu'on trouve sur l'île de Java. Je ne sais pas si on voit le nom des. Ouais, on voit le nom des villes. En haut, vous avez Jakarta, donc qui est. Alors, les Javanais sont dominants dans l'archipel, mais la capitale, donc là d'où sont partis les ordres, c'est pour ça que je vous en parle, hein, les ordres, on va voir, qui ont donné lieu à la chasse aux sorcières, aux sorciers de Java Est, les ordres partaient de la capitale de Jakarta. Donc, il ne se situe pas en zone javanaise, même si elle est aux mains, en gros, des javanais, si le pouvoir politique est aux mains des javanais, elle se trouve en zone sundanaise. Bon, ce sont des raisons historiques liées au colonialisme, parce que les Hollandais avaient créé leur premier comptoir à cet endroit-là. Voilà, donc ça, c'est l'ouest de l'île. Le centre de l'île, quant à lui, on ne le voit pas sur cette carte-ci, alors on le voit là, le nom des villes, là. Yogyakarta, Surakarta sont les villes princières, donc qui se situent au centre de l'île, et la région de ces villes princières, en fait, est une région administrative avec un statut spécial qui est lié au sultan de Yogyakarta, qui a participé à la guerre d'indépendance, qui a été un héros de la guerre d'indépendance. Donc il y a un statut spécial, mais qui se situe aussi au centre de la région administrative de Java Centre. Et Java Centre, en fait, pour les Javanais, est le centre du monde javanais. À une époque, était le centre du monde de façon beaucoup plus large. Il y a une sorte d'influence bénéfique des cours royales sur la région de Java Centre. Et plus on va vers l'est, hein, qui est aussi peuplé par les Javanais, vers l'est de l'île. Alors pour vous, c'est par là, vers l'est de l'île. Plus ce rayonnement des cours royales s'atténue jusqu'à arriver au bout de l'île. Ça se ressent particulièrement par la langue javanaise, qui est une langue à niveau, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas le même vocabulaire selon le rang social de la personne à qui on s'adresse. À Java Centre et autour des cours princières, ces niveaux de langue sont très utilisés, très respectés. Mais plus on va vers l'est de l'île, et plus l'utilisation des niveaux de langue tombe en désuétude, et on utilise essentiellement le niveau de langue populaire. Alors, je sais que ça existe un peu dans toutes les langues, mais dans le javanais, c'est vraiment de façon systématique. Les niveaux de langue, c'est quelque chose de très important. Donc voilà, rayonnement des cours princières, hein, de Yogyakarta et de Surakarta. Et grâce à ce rayonnement, on dit que les pratiques de magie noire, justement, sont très peu présentes dans cette région de l'île. Relativement absentes. Elles existent, mais pas autant qu'ailleurs dans l'île ou qu'ailleurs dans l'archipel. Voilà, et donc après, on va vers l'est. Vers l'est, qu'est-ce qui se passe historiquement? Les Javanais sont devenus musulmans, la royauté javanaise est une royauté musulmane, mais dès le départ, qui a subordonné l'islam au culte royaux, au culte aux esprits protecteurs du royaume, notamment le culte à la déesse des mers du sud. Historiquement, certains leaders, certains chefs religieux musulmans ont essayé d'avoir une influence importante sur la cour. Ça a explosé. Il y a eu des massacres de chefs musulmans au XVIIe siècle. et des massacres de, non seulement des chefs, mais de ceux qui les suivaient, de leurs familles, de ceux qui les suivaient. Et du coup, les chefs musulmans sont partis vers l'Est. Ouais, donc ça, c'est important aussi pour la suite de l'exposé, c'est que il existe dans l'Est de l'île des écoles coraniques très importantes. Moi, je suis resté un certain temps dans une de ces écoles coraniques, je vous montrerai des photos, qui était dirigée par comme toutes les écoles coraniques, mais le chef l'ouléma de cette école coranique était un chef charismatique très important de la région de Java-Est. C'était un conseiller du président Abdurrahman Wahid, qui a succédé à Suharto après la chute de celui-ci. J'ai pu m'apercevoir que ce sont des chefs vraiment charismatiques très importants localement. Et donc qui sortent un petit peu de l'influence des cours princières, des cours royales, et qui sont disséminés. Donc l'école coranique, le peu s'entraîne que dans lequel je suis resté, selon les années, comptait quand même 8000 à 10000 centris élèves, hein. C'est presque des petites villes quasiment, c'est des grandes écoles. Voilà, alors petit à petit on se rapproche de la région sur laquelle va porter l'essentiel de mon exposé, en tout cas qui a donné le titre à ce que je vais présenter. On se rapproche de l'extrémité de l'île de Java, et en même temps on se rapproche de l'île de Bali. Or, dans cette partie-là, alors en bleu on a des Madurais qui viennent de l'île bleue qui est au nord là, qui sont donc très présents dans l'île. Je pense que ça joue un effet aussi sur les tensions qui existent localement, parce que les Madurais sont un peuple réputé non seulement guerrier, hein, tous les peuples de la région ont des traditions guerrières bien marquées, mais les Madurais en plus ont la réputation de ne pas savoir se maîtriser émotionnellement, à l'opposé des Javanais. Des tensions, ça favorise les tensions dans cette région. Et on voit qu'il y a sur cette carte, il y a deux autres groupes. Il y a les Tengger. Alors les Tengger sont un groupe lié au groupe javanais. C'est un sous-groupe javanais, si vous voulez. Ils ont été étudiés par l'anthropologue américain Robert Hefner, qui a fait une très bonne monographie sur les Tengger, qui sont restés finalement hindouistes. Même avec la vague d'islamisation qui a recouvert l'île de Java, ils sont restés hindouistes. Donc il a décrit leurs pratiques, etc. Il y a des pratiques que j'ai décrites moi-même, qui existent aussi chez les Tengger, donc qui montrent bien que l'islam n'a pas noyé les pratiques locales javanaises, on s'en fout. Et les Tengger donc, résident autour du mont Bromo, qui est une des montagnes sacrées. Un volcan d'ailleurs. En général, les montagnes de Java, c'est des volcans. Une des montagnes sacrées, donc, et la montagne sacrée par excellence des Tengger. Et à côté des Tengger, vous avez les Osing, donc, qui sont aussi un sous-groupe javanais, qui ont été étudiés par l'anthropologue britannique Beatty, Andrew Beatty. Et voilà, et lui a étudié les Osing. Alors, il a fait son travail un petit peu dans le prolongement de la thèse, enfin de ce qui a servi de thèse de doctorat à Clifford Geertz, The Religion of Java, une édition originale que j'ai trouvée aux Pays-Bas, qui date de 1960, mais qui provient d'un terrain qui a été effectué dans les années 50, et dans lequel il décrit des pratiques, et faisons circuler. Dans lequel il décrit des pratiques qui existent jusqu'à aujourd'hui, des pratiques javanaises. Alors lui, il a travaillé à la limite entre Java Centre et Java Est, en se rapprochant un petit peu de Java Est et de la zone dont il est question, à mi-chemin entre l'influence des cours royales et l'absence d'influence de celle-ci. Et je dois dire que Clifford Geertz, en fait, est le seul à parler de sorcellerie dans sa monographie par rapport à Hefner ou à Beatty. Il y consacre néanmoins pas beaucoup de pages, mais tout de même 4 pages. Si on a le temps à la fin, je ne suis pas sûr qu'on l'ait, mais je pourrais vous en dire un mot. Donc je parlais de Beatty, oui, qui a étudié les O-Sign un petit peu dans le prolongement de Clifford Geertz, peut-être un peu trop influencé par le travail de Clifford Geertz, puisqu'il avait fait une analyse pour montrer que Clifford Geertz n'avait pas analysé de façon précise et bien vu la situation religieuse à Java. Bon, enfin, ça, c'est pour la petite histoire des anthropologues qui travaillent sur Java. Néanmoins, les O-Sign, leur caractéristique, c'est d'être resté hindouiste très longtemps, mais d'avoir été forcé à adopter l'islam à l'époque coloniale, au tout début du XXe siècle, pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire que les Hollandais avaient eu un mal fou à coloniser l'île de Bali, qui était hindouiste. Ça a été très dur pour eux. Alors bon, c'est pas décrit par les historiens, mais avec les travaux que j'ai effectués sur l'initiation rituelle guerrière, et en sachant que l'initiation rituelle guerrière javanaise, Kanuragan, existe, non seulement existe à Bali, mais c'est probablement préservé davantage dans sa version hindouiste à Bali, une version guerrière un petit peu beaucoup plus, peut-être beaucoup plus, j'ai pas envie de dire agressive, mais beaucoup plus qui implique les personnes beaucoup plus, quoi. Ils sont prêts à mourir pour leur idéal, enfin, pour leur système de valeurs. L'islam a un petit peu calmé ça, si vous voulez. Donc les Hollandais se sont dit on va les obliger à se convertir à l'islam pour qu'ils se calment. Enfin, les O-Sign, pas les Balinais. Ils auraient voulu le faire pour les Balinais, mais ils n'auraient jamais réussi. Les Balinais ont préféré. D'ailleurs, c'est arrivé. Ils se sont suicidés plutôt que de se rendre aux Hollandais. On va, pour éviter ce problème qu'on a rencontré avec les Balinais, on va forcer les O-Sign à se convertir à l'islam. Et ça, c'est donc au tout début du XXe siècle. Donc, voilà encore un aspect qui fait que les O-Sign ont perpétué beaucoup de traditions et de pratiques similaires à celles des Balinais, mais malgré tout sont devenus officiellement musulmans. Donc c'est une situation qui n'est pas très stable pour eux, mais ils ont dû faire avec. Et voilà, ça a donné un type de société où on rencontre beaucoup de pratiques hindouistes, mais hindouistes à la javanaise ou à la balinaise. Il faut pas comprendre ça comme le système des castes en Inde. Et à mon avis, mais je ne suis pas un spécialiste de la région comme peut l'être Beatty, mais à mon avis, ça a dû aussi jouer un rôle dans les événements dont je vais vous parler. Donc ça, c'est un petit peu la carte magico-religieuse de Java, très rapidement décrite. Alors, qu'est-ce que j'avais dit ? Alors, déjà, j'ai parlé beaucoup de temps. Ouais, je vais... Ah oui, alors, il y a une chose qu'il faut que je vous montre, puisque j'ai fini d'utiliser ces cartes-là. Je ne sais plus comment je sors de là-dedans. Là. Tac. Voilà. Voilà, il y a une chose que je vous montre. Enfin, j'ai fait un petit glossaire parce que bon, ça m'évitera d'avoir à aller l'écrire au tableau, d'aller écrire les mots au tableau. Bon, ça c'est le plan que j'avais prévu, donc les pratiques que j'ai moi-même rencontrées sur le terrain, mais je le ferai à la fin si j'ai le temps. Parce que, la carte régionale magico-religieuse de Java, bon, on vient de le voir. Alors maintenant, donc, je vais vous parler de la configuration politique de Java. Voilà, qui aide beaucoup à comprendre un petit peu ce qui va se passer ici, et donc, enfin, ce qui va se passer dans l'événement que je vais décrire. Et donc, j'avais préparé cette liste des termes que je vais utiliser, comme ça, j'aurais pas besoin de les écrire au tableau. Alors, non seulement j'ai mis les termes, dans l'ordre alphabétique, mais j'ai aussi mis ce qu'il voulait dire. Je le redirai pendant l'exposé, mais comme ça, vous pouvez vous référer à ça. Alors, je passe donc à la deuxième partie de mon exposé, donc la configuration politique à Java. Alors, je l'ai un petit peu abordé, en vous parlant de la colonisation, l'islamisation, de l'hindouisme. Ce qu'on peut dire par rapport à cette configuration politique, c'est que des notions qui se sont créées à la période indo-bouddhiste, de l'Asie du Sud-Est en général, mais de Java en particulier, c'est-à-dire une période qui va du 5e siècle, surtout à partir du 9e siècle pour l'expansion des grands empires indo-bouddhistes, jusqu'au 14-15e siècle, l'islam commence à arriver doucement assez tôt, 9e siècle, et commence à se développer comme ça, mine de rien, et les grands empires, donc 7, 8, 9e siècle, et jusqu'au 14e siècle, en gros, et à partir du 14e siècle, 15e siècle, développement des grands empires musulmans à Java. Alors, les notions qui se sont développées à la période indo-bouddhiste, des notions importantes par rapport à la dimension politique, c'est la notion, par exemple, de roi-prêtre, pandito ratu. J'espère que j'ai oublié de la mettre. Ouais, bon, c'est pas grave. Pandito ratu. P-A-N-D-H-I-T-A, ratu, R-A-T-U. C'est bête, ça. Ouais, j'ai oublié de la mettre. Donc, pandito, prêtre, ratu, roi. En fait, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit roi-prêtre. En fait, ce serait plutôt prêtre-roi. Ce qui veut dire qu'on met tout de même le religieux avant le politique. Prêtre-roi. C'est important parce que c'est le statut du roi javanais. C'est qu'il n'est pas seulement un chef politique, mais il est aussi un chef religieux. C'est une royauté de droit divin. Et ça, c'est très important, puisque avec Suharto, on peut dire que cet attribut a perduré jusqu'à 1998. A perduré. Alors, en 1900, Suharto est arrivé au pouvoir en 1965. Il a supplanté Sukarno, qui avait déclaré l'indépendance en 1945, en effectuant une purge des communistes. C'était un général de l'armée, et donc il a instauré un pouvoir très très dur jusqu'en 1998, 65, 98, 32 ans et quelques. Et quand il s'est retiré, il a donné sa démission sous la pression populaire, les manifestations populaires, notamment d'étudiants, ça a été initié par les étudiants. Comme l'armée était scindée et qu'il avait perdu beaucoup d'appui dans les organisations religieuses, etc., finalement, il était contraint de donner sa démission. Mais moi, alors oui, c'est aussi... j'ai pas fait de terrain sur la région dont je vais vous parler, mais à l'époque, j'étais à Java. J'ai eu un post-doctorat Lavoisier. Et je suis arrivé juste après ma soutenance de thèse, fin 97. Les manifestations anti-Suartoïs, c'est mai 98. Et après, je suis resté encore un an et demi. Donc, je suis resté deux ans en tout. Donc j'ai vraiment assisté à tout ce qui s'est passé à cette époque-là, même d'un peu loin pour ce qui concerne Java Est. Mais je ne me serais pas permis d'en parler si je n'avais pas été sur place, je veux dire. Voilà, la notion de roi-prêtre. Quand Suharto donne sa démission, il dit « Je l'inxer que praban ».« L'inxer », je laisse ma place, « que praban » de dirigeant. Pas seulement de dirigeant, de roi. Praban, « que praban », c'est sur la base, j'ai oublié de le mettre peut-être, la base « prabhu » qui signifie « roi ». Je laisse... la place de mon statut de roi à mon successeur. C'est ce que faisait traditionnellement un roi de la période indo-bouddhiste. À un âge avancé, il laissait la place à son successeur, Et il partait pratiquer la cèse, s'isoler, pratiquer la cèse. Il était consulté ponctuellement pour donner des conseils. Et c'est exactement le terme précis et repris par Suharto et repris par tout le monde, par tous les Javanais, par tous les Indonésiens, par la presse, par tout le monde. Lengser Kepraban. Je laisse ma place de roi. Donc c'est tout à fait significatif de la conception javanaise traditionnelle quant au statut de dirigeant. Et personne ne s'y trompait, ne s'y est trompé, pas moins Suharto que tous les Javanais, que tous les Indonésiens. Suharto, officiellement, était le président de la République indonésienne, mais dans les faits, c'était ni plus ni moins un roi javanais. Avec cette autre notion très importante, qui dit que la parole du roi javanais ne doit jamais être discutée. Ça, c'est une notion très importante à Java, et qui explique aussi beaucoup de choses qui n'excusent pas, bien sûr, le régime totalitaire de Suharto, loin de là, mais qui explique beaucoup de choses quant à ce régime. C'est que la parole du roi javanais ne peut en aucun cas être discutée. Voilà, bon, ça, ce sont les notions de la période indo-bouddhiste. Bon, après, il y a eu l'islamisation, etc. Mais les javanais, donc je l'ai dit, je le répète, même au travers de l'islamisation, se considèrent avant tout javanais. Enfin, pas tous les javanais. Hein. Il y a des organisations musulmanes où des javanais se considèrent musulmans plutôt avant d'être javanais. Mais les javanais qui pratiquent la religion de Java telle qu'elle est décrite par Clifford Geertz, notamment, pour eux, ils sont javanais avant d'être musulmans. Et les rituels d'offrande aux esprits protecteurs du royaume par la cour royale javanaise sont perpétués jusqu'à aujourd'hui, notamment ceux à la déesse des mers du sud. Donc l'islam est arrivé après la période indo-bouddhiste. Il n'y a pas véritablement de notion qui est supplantée, celle que je viens de vous donner. L'islamisation dans le paysage magico-religieux javanais, qu'est-ce qu'elle a apporté? Elle a apporté plutôt une forme de démocratisation des pratiques magico-religieuses qui existaient avant, notamment la pratique de méditation. Si on compare avec Bali, alors ce que m'a raconté Catherine Basset, c'est que à Bali, la seule personne qui a le droit de pratiquer la méditation, alors ça a peut-être un peu changé maintenant aujourd'hui, hein, je suppose, mais c'est encore très marqué, ce sont les brahmanes. Les brahmanes pratiquent la méditation pour la communauté villageoise ou la communauté de l'espace social où le brahman se trouve. À Java, avec l'influence de, si vous voulez, un peu égalitariste de l'islam, les pratiques, les techniques qui se sont développées, qui se sont transmises beaucoup plus facilement dans différents contextes sociaux, la méditation peut être pratiquée par tout le monde. Et bon, moi j'ai beaucoup travaillé sur les écoles d'arts martiaux. Dans les écoles d'arts martiaux, tout le monde pratique la méditation, etc. Donc, j'effectue un petit raccourci, j'avais prévu de le dire à la fin. Mais une chose qui m'avait beaucoup intéressé dans l'exposé de Jeanne Favret-Salada, c'est cette histoire de pouvoir. De pouvoir qui existe, mais dans ce qu'elle nous a décrit, le pouvoir, il ne peut être que le fait du sorcier ou le fait du désorceleur. À Java, c'est très différent. C'est pour ça que je vais poser une question à propos de ça, c'est de savoir si la personne elle-même ne pouvait pas se défendre vis-à-vis des pratiques de sorcellerie. À Java, c'est très différent. Ceux qui pratiquent les techniques respiratoires, le yoga, bon, qui n'est plus appelé comme ça, mais qui est encore pratiqué, les techniques respiratoires, le yoga et la méditation, peuvent développer justement une forme de pouvoir, tanagadalam, si je traduis littéralement, force intérieure, qui est une notion, si vous voulez, qui provient de la notion hindouiste de Kasektan, qui provient elle-même du shivaïsme tantrique, du culte voué à la sakti. Donc avec ce processus de démocratisation, ces techniques et ces pratiques ont continué à perdurer au travers de l'islam, et tout un chacun peut développer son tenaga d'alam, son potentiel de sakti, pour se protéger d'une part, ou s'il a des aspirations martiales ou guerrières, pour renforcer sa puissance, ou notamment pour se protéger des pratiques de magie noire, de sorcellerie. Donc, grâce à l'islam, démocratisation de ce type de technique. Donc, quelque chose qui est aussi important pour comprendre ce qui se passe à Java. Alors, j'étais dans la configuration politique de Java. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je crois que je vous ai dit... Si, je pourrais vous dire que Suharto, au début de... J'allais dire son mandat présidentiel, son mandat autoproclamé, si vous voulez, présidentiel, de 32 ans, avec des élections, hein, des élections un peu truquées, mais avec des élections, avait un comportement tout à fait de javaniste. Il avait un maître de Kyobatinam, de mystique javanaise. Et il pratiquait le pèlerinage sur les lieux saints javanais. Alors, c'est une... il ne faut pas croire qu'il n'y a que Suharto qui fait ça. Hein. La plupart des hommes politiques javanais le font. J'ai pas son livre. C'est Romain Bertrand qui est politologue, qui a bien décrit ce processus dans les milieux politiques javanais. En tout cas, Suharto, jusque dans les années 80... pratiquait ce javanisme, que Jawan, je vais le connaître, est-ce que je l'ai mis, que Jawan, alors K-E-J-A-W-A-N, c'est ce qu'il avait écrit sur la carte, que Jawan. Dans le courant des années 80, début des années 90, au fur et à mesure de ces alliances, c'est un petit peu plus orienté vers des alliances avec les organisations musulmanes. Donc il a eu une attitude plus de... Il a été faire son pèlerinage à la Mecque. Il a un petit peu laissé de côté le Kejawan, mais jamais complètement abandonné. D'ailleurs, ça fait dire au maître de Kejawan que, quand il à sa chute, qu'il avait trop abandonné le Kejawan, et que c'est pour ça qu'il a causé le mécontentement populaire. En tout cas, donc il a un petit peu changé dans son comportement religieux, rituel et religieux au fur et à mesure de son mandat politique. Et néanmoins, chose importante par rapport au thème de la sorcellerie, il a toujours eu une armée de Dukun. Alors les Dukun, ça peut être des sorciers ou pas forcément des sorciers. Alors après, derrière, ça dépend du qualificatif qu'il y a. Justement, les Dukun sans tête dont je vous parle, c'est plutôt du côté sorcier. En tout cas, il avait eu une armée de Dukun à son service, plusieurs dizaines. Il y a eu des fascicules à la chute de Suharto qui ont circulé pour décrire, donner les noms des Dukun, dire quelle était leur spécialité, etc. Il en avait à peu près 40, 50, peut-être plus.
C'est comme les conseillers de Sarkozy, quoi. C'est un peu...
On ne connaît pas le nombre précis, mais on sait qu'ils sont là. Voilà, donc ceux-là, ils l'ont suivi jusqu'à sa chute. Et sa chute, en fait, ça a aussi terni la réputation de certains de ses doukouls. Voilà ce que je peux vous dire, rapidement, parce que je crois que je suis près de la fin.
Oui, 5 minutes.
5 minutes. Rapidement sur le contexte politique. Configuration politique de Java. Donc j'aborde sans plus tarder les événements eux-mêmes dont je voulais vous parler, alors que je ne connais pas par cœur. Une notion importante, alors c'est la quatrième partie de mon exposé, donc celle qui a donné le titre de la présentation, les sorciers Dukun sans tête à Java, ou de Java, comme vous voulez. Donc, qui concerne cette région de Java-Est. Vous voulez que je revienne sur la carte? Non. Bon. Non, je vais laisser parce que vous aurez besoin du vocabulaire, je pense. Alors, une notion très importante pour aborder le cas de ces dukun sans tête, c'est la notion de ngamuk. G-N-A. Je suis désolé, j'ai ma liste est vraiment pas complète. Hein. G-N-A-M-U-K. Ngamuk. Ngamuk, qui veut dire. C'est sur la base amok. Enfin, en javanais, c'est amuk, A-M-U-K, mais qui existe dans le malais sous la forme amok. Et l'amok, c'est quelque chose qu'on connaît un petit peu dans la littérature européenne, des explorateurs européens qui sont allés en Malaisie, en Indonésie. L'amok, c'est une forme de folie furieuse, meurtrière. Et ngamuk, donc avec le préfixe verbal ng, ça désigne le fait d'être pris par cette folie furieuse meurtrière. Ngamuk. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Dukun sans tête de Java Est en 1998? C'est des foules prises de folie meurtrière et qui ont lynché des Dukun sans tête. Alors, à l'époque, il y avait un autre terme qui était utilisé, notamment par les journalistes dans la presse nationale, donc en indonésien, non pas en javanais, mais en indonésien, c'était Main Hakim, alors c'est en rapport avec le droit un petit peu, Main Hakim Sendiri. Si je traduis littéralement, jouer au juge par soi-même. C'est-à-dire faire la justice soi-même. Bon, et ça, il faut. C'est important de savoir, enfin c'est pas propre à Java, hein, mais ça existe très fort à Java, même dans la région de Java Centre où il y a le rayonnement des cours princières, Main Hakim Sendiri ou Ngamuk, c'est quelque chose qui existe de façon répandue et régulière. Ce sont des phénomènes qui apparaissent régulièrement, à tel point que les Javanais citadins craignent de se promener dans les campagnes javanaises, tout seul, dans des campagnes où ils ne connaissent personne. En général, ils n'y vont jamais. Ils n'y vont jamais parce que, qui sait, peut-être qu'il y a eu un vol la veille, ou qu'il y a eu quelque chose, un événement spécial, on ne sait pas qui est le coupable, on voit une nouvelle tête qui arrive, paf. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, cette notion de faire la justice par soi-même. Justice populaire, donc des foules qui se jettent sur une personne qui la massacre. Pas forcément parce qu'elle est accusée de sorcellerie, hein, mais ça peut être pour d'autres raisons. Donc voilà ces deux notions importantes pour aborder le cas des Dukun sans tête. Alors, très rapidement, entre juillet et octobre 1998, donc début de la chute du régime suartoïste en mai 1998, manifestation des étudiants, etc. Et entre juillet et octobre 1998, il y a eu entre 147 et 174 personnes qui ont été victimes de cette Main Hakim Sendiri, de cette justice populaire. Alors ça varie, les chiffres varient selon les sources, donc qui ont été dans la région de Banyuwangi, la capitale de l'Est javanais, là où sont les Osing, etc. Alors évidemment, c'est 147, 174 par rapport aux 50 000 sorciers et sorcières tués évoqués par Pierre Lemonnier, ça paraît pas beaucoup, mais c'était peut-être sur une période de temps plus large, les 50 000. En tout cas, par rapport au, même si c'est un phénomène courant, le pourcentage est beaucoup plus élevé que la moyenne, sur ce laps de temps et sur un territoire donné. Alors, le cas type, c'était que quelqu'un a déclaré en public que telle ou telle personne était un Dukun sans tête, et paf, tout le monde sautait dessus, et qu'est-ce qu'il lui faisait? Il le battait, alors je sais plus, j'ai fait la liste, il le tabassait, il le torturait, il le brûlait, il lui coupait la tête, enfin, toutes sortes de choses aussi horribles que celles que Pierre Lemonnier nous a décrites la dernière fois. Enfin, aussi horribles, je sais pas, mais pas loin en tout cas. Alors, ce qui est. Alors, il y a eu des rapports qui ont été rédigés. Il y a ceux de la police, de la préfecture, du Nardatul Ulama, qui est l'organisation religieuse des contextes agraires qui domine ces écoles coraniques dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui se sont retrouvés alors des rapports de chercheurs, de journalistes aussi, et donc du Narda Tulu Lama, qui étaient concernés parce que une grande partie de ces victimes étaient des membres de cette organisation religieuse du Narda Tulu Lama, NU, on dit NU, le NU. Lui, je l'ai mis dans la liste. Oui, un nombre important des victimes étaient des enseignants de cette organisation. Donc on a bien eu l'impression que c'était l'organisation qui était visée. D'après ces rapports, plus de la moitié finalement des victimes n'étaient pas des Dukun sans tête. Une bonne partie étaient des membres du NU, des enseignants, d'autres étaient apparemment des agriculteurs ou des artisans sans problème. Alors le processus a duré pendant plusieurs semaines, durant juillet et août, et au bout de quelques semaines, un autre type de personnage est apparu, vêtu comme des ninjas, c'est-à-dire vêtu de noir avec des masques, et se sont mis à visiter des maisons, secrètement, en se cachant, pour tuer les propriétaires de ces maisons. Et la plupart des propriétaires de ces maisons étaient des membres aussi du Narda Tulu ou Lama. Et voilà, et donc il y a une terreur qui a commencé à se développer, enfin qui a continué à se développer dans cette région, et une terreur qui a provoqué une sorte de parano. Et on s'est mis à voir des ninjas un petit peu partout, et voilà, ces ninjas ont aussi été massacrés par les foules en colère. Alors par rapport à ces événements, il y a eu différentes hypothèses. Alors, la police, comme elle se montrait inefficace, on a dit qu'elle devait savoir qui était derrière. Tout ça. Et la police disait, oui, mais si nous on essaye d'intervenir, qu'est-ce qui va nous arriver? Il va nous arriver la même chose qu'à ces victimes à qui on coupait la tête, qu'on brûlait et qu'on tabassait. Donc elle disait qu'elle ne savait pas du tout qui était derrière ça. Alors comment on a su, ça n'a jamais été véritablement prouvé, mais bien sûr c'était après la chute de Suharto. Qu'est-ce qui se passe après la chute de Suharto? Il y a son beau-fils Prabowo. Alors il a une tête d'enfant de cœur, on lui prêterait le bon Dieu sans confection, je vous le fais passer. Mais c'est aussi un... Bon, c'est ouais, le chef d'un groupe... C'est juste pour la photo, hein. C'est écrit en indonésien. C'est le chef d'un groupe spécial de l'armée et qui a joué un rôle important dans les manœuvres militaires secrètes de la période suartoïste, notamment au Timor oriental. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que avant mai 78, pendant les périodes de démonstration des étudiants, Prabowo est fortement suspecté, mais avec des preuves suffisantes à l'appui pour le condamner, mais il a juste été inquiété un petit peu par un tribunal militaire. Il avait organisé le massacre de Chinois. Alors les Chinois sont un peu les boucs émissaires en Asie du Sud-Est en général, mais en particulier en Indonésie, les boucs émissaires. Donc des massacres de Chinois, la destruction du quartier chinois commercial d'électronique de Jakarta, de la capitale, et le viol de plusieurs dizaines de jeunes filles d'origine chinoise, des sino-indonésiens, hein, pas des Chinois de Chine, mais des sino-indonésiens. Et à la suite de ça, je ne sais plus où j'ai noté ça, je vais le faire de mémoire. Il a été il est passé devant une sorte de cour martiale qui a dit qu'il avait été responsable, non pas pour tous ces massacres et pour les Dukun sans tête, etc., pour les manipulations qui ont suscité la folie meurtrière des foules, mais parce qu'il avait enlevé des activistes étudiants qu'il avait fait torturer. Donc il a été condamné par ça, il est parti 2 ans en exil, ensuite il est revenu et maintenant il se présente au présidentiel. Enfin, tout ça dit très rapidement. Voilà, donc je suis allé un petit peu vite sur le cas des Dukun sans tête. Bon, si vous avez des questions, on pourra revenir dessus. J'avais préparé une conclusion. Qu'est-ce que je pourrais dire rapidement en conclusion? C'est que, voilà, en temps normal, la sorcellerie à Java apparaît structurante. Structurante dans le sens de Victor Turner, où la marge participe à équilibrer un système social donné. Ce qui m'a intéressé dans ce qu'a dit Jean-Benoît tout à l'heure en parlant de l'hindouisme, c'est que du point de vue hindouiste, effectivement, je ne sais pas si on peut dire que la sorcellerie existe en soi. Effectivement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a un nombre de pratiques données qui fait que des pratiques identiques d'un point de vue peuvent être utilisées soit pour faire le mal, soit pour faire le bien, entre guillemets. C'est le cas du yoga et de la méditation. Dans le théâtre d'ombre javanais, Arjuna défend les dieux en pratiquant, parce qu'il atteint un très haut niveau de yoga shivaïte, et Niwatakawacha attaque les dieux parce qu'il a atteint le même niveau de yoga shivaïte. Donc vous voyez, on peut l'utiliser buts différents. Voilà, j'arrête. Puisqu'il faudrait finir, j'arrête.
C'est là, je suis désolé, mais...
Non, mais c'est normal.
Trois quarts d'heure de communication sont vraiment atteints. Et donc, merci beaucoup Jean-Marc. Effectivement, alors c'est une question, d'abord une question épistémologique, qu'est-ce que la sorcellerie? Parce que finalement, dans ce milieu, il semble que la question soit se pose pas en ces termes-là, hein, où on navigue un petit peu entre plusieurs concepts, et on voit bien le rôle ambigu en quelque sorte des techniques de méditation, des techniques respiratoires qui sont liées aux arts corporels, hein, des javanais. Alors moi, ce que je trouvais paradoxal, c'est, je ne sais pas si j'ai bien suivi, mais c'est que apparemment, donc, c'est puisque ce sont les écoles coraniques qui tendent à développer ces arts-là, hein, je ne me trompe pas.
Oui. Oui, notamment.
Oui. Et donc, étant donné que ces arts-là aussi, manifestement, permettent des défense contre les actions de type sorcellaire, mais en même temps, manifestement, permettent aussi de réaliser des actions, hein, puisque c'est un peu ce que tu as dit. Et donc, le paradoxe serait que, ici, s'il y avait une pratique sorcellaire, elle serait peut-être justement développée à partir de l'institution, quoi, non pas à partir des marges. C'est-à-dire, les écoles islamiques, les arts traditionnels javanais, je ne sais pas, c'est une question que je pose.
Oui, a priori, dans les écoles coraniques, enfin les écoles coraniques ne sont pas étudiées pour former des sorciers, mais...
Non, bien sûr,
mais on peut...
Je veux dire, c'est
peut-être
un effet pervers, quoi.
Oui, mais on peut envisager peut-être des personnes qui ont été formées dans les écoles coraniques et qui deviennent effectivement des sorciers, ouais. En utilisant peut-être certaines choses qu'ils ont apprises dans les écoles coraniques. Alors après, il y a tout plein de discussions, de désaccords sur la façon d'interpréter les textes du Coran, mais aussi de les utiliser. Alors effectivement, on peut les utiliser pour dire chez les musulmans un peu progressistes, ancrés dans le monde moderne, etc. L'utilisation, notamment pour communiquer avec les esprits considérés comme des formes de culte subalternes, chériques, est très critiquée, mais est aussi énormément pratiquée.
Et quelle est la position du Coran par rapport à la sorcellerie, en général, justement? On a parlé des conceptions catholiques et protestantes tout à l'heure, où, dans un sens, on avait un catholicisme extrêmement ambigu, puisque par sa reconnaissance du diable, et donc il donnait crédit à la sorcellerie, et une conception qui serait protestante, rationalisatrice, qui rejetterait la sorcellerie au-delà de l'existant, disons. Je ne sais pas quelle est la position de l'islam, ou les positions de l'islam, parce qu'il peut y en avoir.
Oui, ça sera plutôt les positions, oui. La position générale, c'est que tout ce qui est de l'ordre d'un culte à des esprits subalterne, puisque c'est une religion vraiment monothéiste avec un grand M. Je ne vais pas dire rentre dans le cadre de la sorcellerie, mais en tout cas rentre dans le cadre du shirik, qui désigne justement le fait de vouer un culte à un autre esprit que Dieu, que Allah. Voilà. Alors après, selon les perspectives de l'islam, on va taxer ça de magie noire. Après, c'est plutôt les ouais, effectivement, par rapport aux différents courants de l'islam, et peut-être aussi par rapport aux traditions locales, régionales, locales, selon qu'on est javanais, selon qu'on est minangkabau, selon qu'on est bouddhiste, etc. Après, dans le détail, c'est vrai que j'ai pas vraiment creusé la question. Il y a sûrement des choses plus précises à creuser dans le discours de l'islam lui-même.
Il ne faut quand même pas oublier tout le rapport au djinn, qui, dans certains cas, prend vraiment l'allure de mauvais esprit. Oui. La thématique des Gnawa du Maroc, tout ça, on est vraiment au cœur de quelque chose qui est en continuum avec l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest.
Mais les djinns sont reconnus par l'islam, tandis que les autres types d'esprit locaux sont pas reconnus.
Oui, mais finalement, dans la fonction, notamment dans l'islam indien, ce qu'on appelle les djinns, les mauvais djinns, les djinns sales, sont vraiment des mauvais esprits.
Oui, oui, bien sûr.
Des questions
J'aurais peut-être une question, mais d'éclaircissement. Moi, j'avais travaillé dans un village indonésien de Guyane, et c'était des gens qui avaient été envoyés du temps de Sukarno pour susciter chez les Indonésiens de Suriname une révolte et un ralliement à l'Indonésie. Ils ont été expulsés et se sont venus se fixer en Guyane française, mais c'est un vrai village. J'ai pas mal fréquenté notamment ce milieu-là. Le chef disait, moi je suis un priai. Et il avait, tous les autres étaient musulmans. Mais lui, en tant qu'hindou, il se considérait qu'il avait un mépris total pour les musulmans. Il les prenait vraiment pour des rien du tout. Il disait, ils ne savent pas faire la culture, ils ne savent rien faire. Et c'est lui quand même qui faisait pour eux tous les horoscopes, toutes les divinations, toutes ces choses-là. Est-ce que c'est une structure classique ou c'était un cas particulier de la migration?
Oui, c'est vraiment un cas particulier de la migration. En fait, il y a deux communautés qui sont en dehors de l'Indonésie et qui sont liées à la période coloniale. Alors, c'est en Guyane, effectivement, et aussi à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Il y a des communautés alors indonésiennes, effectivement, mais plus particulièrement javanaises. Et, alors, Priayi, ça veut dire qu'il est javanais, effectivement. Et étonnamment, en Nouvelle-Calédonie, c'est essentiellement des ouvriers qui ont été envoyés là-bas, donc ils parlent le niveau de langue populaire et ils ne parlent pas du tout les autres niveaux de langue. Moi j'en ai rencontré plusieurs, quand j'utilise les niveaux élevés, ils comprennent absolument rien, donc on peut pas mal de discuter avec eux. Et par contre, une fois à un colloque en Indonésie chez les Minangkabau à Sumatra Ouest, dans une université locale, il y avait un indonésien javanais, donc de Guyane, qui était venu, qui a parlé au colloque, et étonnamment, à l'inverse des javanais de Nouvelle-Calédonie, lui, il n'utilisait que le niveau de langue élevé, et il était incapable d'utiliser un autre niveau. Alors ça recoupe tout à fait ce que vous dites là. C'était certainement un groupe de priayi qui était, c'est-à-dire de nobles qui étaient implantés là. Ouais. Très intéressant.
D'autres questions, observations Oui, Pierre.
C'est un rapport avec les courants d'Amok Malais.
Oui.
Les courants d'Amok Malais, c'est un exemple classique, notamment traité par De Vreux, dans les versétaires de la jeunesse.
Oui, c'est ça.
C'est un désordre ethnique, mental ethnique, un type devient petit flou, quoi, comme on dit. Sauf que là, il rentre dans une catégorie locale et il se met à vouloir tuer tout le monde. Au coin des rues, avec les gens qui avaient tellement habitué le monde, quand ils ont arrêté avec une lance, on appelle le monde de la lance. Mais il y a un rapport avec ça, ou c'est totalement magique?
Oui, c'est ça.
Parce que c'est la foule qui était connue pour la mort, ou c'est les gens en machin sans tête?
C'est-à-dire que l'amok qui est décrit en général dans la littérature, c'est une personne, effectivement, une personne qui se met en colère, qui veut tuer tout le monde avec son Christ ou avec sa lance. Ou avec son... Là, c'est la foule. Mais cette histoire d'Amok, moi, je pense, alors tu parles du berserk, je pense que c'est de ce type de d'état, parce que moi, je l'ai vu dans les écoles de Tonaga Dalam. Les Indonésiens savent très bien le faire. Pas pour tuer quelqu'un, mais pour l'attaquer. Ils se mettent volontairement dans un état second. Et ils se mettent à attaquer, voilà, ils attaquent. C'est très impressionnant. Et je pense que la moque, en fait, comme le berserk, c'est aussi une technique guerrière au départ. Une technique guerrière pour rentrer dans une espèce d'état second qui permet finalement de plus éprouver les sentiments de crainte ou de peur et de pouvoir plonger dans la mêlée. Alors après, il y a cet état, c'est un. Interprétation un peu psychologique de quelqu'un qui est un peu dérangé par les pressions sociales, etc. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a peut-être coexisté au berserk guerrier, à la moque guerrier, mais je pense qu'à la base, c'est aussi une technique guerrière.
La question très très difficile. Au début, tout début de ton exposé, tu as dit que tu avais étudié, toi, les réalisations guerriers, etc. Donc, la visualisation du cycle de vie, et tu as dit que c'était. En creux ou en négatif, ce que représentait le système de mutation de valeur, la sorcellerie. Tu arrives à joindre les deux, à savoir des phénomènes globaux d'imputation de valeur dans lesquels il faut entendu prendre en compte ce que tu as dit, en Suisse, côté petit droit, sur le sud, il y a des forces qui sont en l'air comme ça.
Non, je ne suis pas.
Je dis en négatif, c'est pareil, c'est un rapport. Extraordinairement dur à faire ce rapport dans beaucoup de sociétés, mais je suis vraiment incapable de le faire. J'ai travaillé sur un système d'imputation du malheur, des cannibalismes, de sorcellerie imaginaire, tout ce qu'on veut. Petit A, partie de ma vie, j'ai travaillé sur des réminiscences pour les guerriers. Le lien entre les deux, ça aura peut-être avec la sagesse en vieillissant, mais pour les gens, c'est pas facile. Tu vois un rapport entre ces deux phénomènes?
Oui, mais je vois tout à fait bien, non pas parce que je connais bien la sorcellerie javanaise. C'est vrai que pour étayer ce que je dis, il faudrait que je la connaisse mieux, c'est sûr. Mais par rapport à ce qu'on m'en dit, par rapport à l'éthique qui est défendue dans les groupes d'initiation rituelle Kanuragan, l'éthique qui est défendue dans les écoles d'arts martiaux, et qu'on oppose aux pratiques des dukun sans tête ou des personnes qui cachent, c'est ça aussi, qui cachent leurs activités. Tandis que dans les écoles d'initiation ou d'arts martiaux, elles sont ouvertes au public. C'est dans cette optique-là que je parlais de négatif. Quoi.
Il y avait
une petite question. La relation entre amok et sorcellerie.
Oui.
Parce que l'amok a connu, comme la sorcellerie ailleurs, une répression très forte pendant la colonisation. Le jugement du juge Norris en 1846, c'était, comment on peut dire, le témoignage le plus fort d'une humiliation du corps de l'accusé. Est-ce qu'on peut faire une comparaison, une confrontation entre la résistance de cette l'obstinée résistance de ces comportements avec la persistance de la sorcellerie ailleurs? Tous les deux. Considérées comme des pratiques intolérables et pas comme des formes de justice locale populaire. Mm-hmm. Toutes les idées qui continuent, de quelque manière, à manifester une crise que certains auteurs, ce que tu as mentionné aussi ici, qu'ils rapportent à la crise des frontières identitaires avec les immigrés, les étrangers, etc. Mm-hmm. Mais est-ce qu'on fait quelque chose par rapport à ces. À ce qui peut être aussi défini comme une forme de résistance à la culture du colonisateur qui a cherché de toute manière d'expulser, de réprimer ce type de comportement, de justice, mais qui continue d'ailleurs.
Je pense que d'une certaine façon, on peut dire ça comme ça. Bon, ceci étant dit, il y avait les lois qu'instaurait le gouvernement colonial. Les néerlandais, mais il y avait aussi les pratiques qu'ils faisaient en sous-main de recruter des hommes de main. Alors pour je connais ça pour les arts martiaux, les hommes de main des Jago, des hommes de main locaux qui ont toutes sortes de pouvoirs aussi, étaient recrutés par le gouvernement colonial. Est-ce qu'ils recrutaient des sorciers En fait, comme la limite est pas du tout étanche entre les jagos et les sorciers, je pense qu'ils devaient recruter, ils devaient aussi utiliser cet aspect-là. Donc j'ai pas fouillé les archives coloniales, mais je pense que ça existe. Il y a des par rapport à la guerre rituelle, il y a des témoignages. C'est Christian Pelleras qui me l'a dit. Hein, il a vu ça dans des archives coloniales hollandaises de Hollandais qui se battaient contre des alors je sais plus si c'est des Javanais ou des Bugis, puisque Christian Pelleras est un spécialiste des Bugis sur l'île de Célèbre. Donc il y avait la guerre entre les deux groupes, et les sources hollandaises disent qu'ils n'arrivaient pas à achever certaines personnes parce qu'elles avaient intégré des techniques, des adji, des sortes d'entités qui rendent invulnérables, et que ces adji empêchent les gens de mourir, et qu'ils faisaient tous les efforts qu'ils pouvaient pour achever les personnes, ils n'y arrivaient pas. Enfin, ils avaient beaucoup de mal à y arriver. Donc voilà, alors il y a le discours un petit peu officiel, ou les lois qui sont établies, et puis il y a ce qui se passe derrière ces lois, par là. Donc, je pense qu'on peut dire ça, dans une certaine limite, on peut le dire.